Vous écoutez France Musique.
L'amour pour la danse en France ne date pas d'hier. Et avoir eu à la tête de l'État l'un des meilleurs danseurs de son temps n'a sûrement pas nui à son essor. En effet, c'est à Louis XIV qu'on doit, dès son arrivée au pouvoir en 1661, la création d'une académie royale de danse, avant même une académie des sciences ou des belles-lettres. 8 ans plus tard, l'académie de danse fusionne avec l'académie royale de musique et en 1713 est lancée l'école de l'académie destinée, je cite, « à élever des sujets propres à remplir les emplois qui manqueront ». L'école de danse de l'Opéra de Paris est née. Aujourd'hui, elle est la doyenne des institutions dans le monde et vient de fêter son tricentenaire. Certes, l'école de danse de l'Opéra n'est pas le seul lieu où l'on peut apprendre la danse classique en France. 330 écoles sont environ recensées, mais c'est tout simplement l'une des meilleures, voire la meilleure école au monde. Et c'est aussi, accessoirement, la seule qui permettra peut-être à ses élèves d'intégrer le corps de ballet de l'Opéra. Car bien qu'elle bénéficie d'une direction autonome depuis plus de 50 ans, bien qu'elle ait quitté le giron du Palais Garnier en 1987 pour s'établir à Nanterre, l'école de danse de l'Opéra de Paris forme environ 95% des danseurs de la maison. En 2011, l'école comptait 152 élèves répartis en 6 divisions. Qui sont les petits rats de l'Opéra? D'où viennent-ils? Qu'apprennent-ils? Avec qui? Et pourquoi faire? Focus aujourd'hui sur l'école de danse de l'Opéra de Paris avec sa directrice Elisabeth Platel, en compagnie bien sûr de Marie-Hélène Devigneau, pour ce nouveau numéro de 30 minutes d'entracte. L'étude pour le mouvement des doigts en tenant la main tranquille, extrait de l'art de délier les doigts de Czerny, étude opus 740, c'est un des choix d'Elisabeth Platel pour cette émission consacrée à l'école de danse. Devenir danseur, plus exactement, peut-être, enfin, devenir danseur quand on sort de l'école de danse, c'est tout un programme, toute une carrière qui s'annonce. Elisabeth Platel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'école de danse depuis 2004. On va revenir un peu sur votre parcours. Vous avez commencé la danse au Conservatoire de Saint-Germain-en-Laye. Vous êtes passé par le Conservatoire National Supérieur de Paris, le CNSN, dans la classe de Christiane Vossard. Premier prix en 1975, et c'est ce premier prix qui vous a ouvert les portes de l'école de danse par laquelle vous êtes passé. Et en 1976, je crois, c'est-à-dire très peu de temps après votre passage à l'école, vous êtes entré dans le corps de ballet de l'Opéra de Paris et vous avez été nommé étoile en 1981 après une représentation de Gisèle, et vous avez quitté le corps de ballet en 1999, et depuis septembre 2004, donc vous avez pris la direction de l'école de danse de Nanterre. On va revenir sur ce parcours, mais on va, avant de se concentrer sur l'école de danse de Paris, écoutez Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour.
Pour devenir danseur classique, il n'y a pas que l'école française, dites-nous.
Difficile de toutes les passer en revue, mais pour ne parler que des écoles les plus prestigieuses, il y a quelques incontournables, à commencer par celle du Bolchoï. Elle a été fondée en 1763 à Moscou sur ordre de la tsarine Catherine II, mais les premiers cours de danse n'y sont donnés qu'en 1773. La liste des premiers élèves diplômés en 1779 a été retrouvée. Elle est affichée au sein même de l'école. Ils étaient 31 et avait suivi l'enseignement d'un certain professeur Paradis. Aujourd'hui, l'école du Bolchoï compte environ 700 élèves. Pour ceux qui échouent, grâce au niveau très élevé de l'instruction générale, il n'y a aucune difficulté ensuite pour les placer dans des écoles ordinaire. Les apprentis danseurs se bousculent, mais le concours est très sélectif. Sachez que pour un étranger, une année d'enseignement à l'école du Bolchoï coûte environ 12 500 euros. Autre référence mondiale de l'enseignement de la danse, et toujours russe, le ballet du théâtre Mariinsky, ancien Kirov à Saint-Pétersbourg. Si la révolution russe contribue au repli du Mariinsky, que son actuel directeur Valérie Gergiev ramène parmi les plus grandes salles du monde, la qualité de son école de danse, fondée en 1738, ne s'est jamais démentie. L'Académie Vaganova, c'est son nom, aujourd'hui formant quelques-uns des plus grands danseurs de l'histoire, comme Nureyev ou encore Baryshnikov. Et aujourd'hui, la méthode Vaganova est la plus communément enseignée en Russie et largement diffusée dans le reste de l'Europe et en Amérique du Nord. C'est d'ailleurs un chorégraphe russe passé par cette école de Saint-Pétersbourg, Georges Balanchine, qui crée en 1934 la School of American Ballet, rattachée au New York City Ballet, une école qui accueille chaque année pas moins de 350 aspirants danseurs venus des quatre coins de la planète.
Merci Marie-Hélène Duvigneau. Elisabeth Platel, les écoles de danse forment différents styles de danseurs encore aujourd'hui. On parle beaucoup d'uniformisation, de mondialisation. Est-ce que ça touche aussi la danse ou est-ce qu'on a toujours un style russe formé à l'école du Bolchoï ou du Mariinsky, un style français à l'école de danse de l'opéra?
Je pense que c'est très important justement cette identité culturelle. Les écoles que vous avez citées, en particulier celle de Balanchine, est née de la volonté d'un chorégraphe qui a dit, avant de construire une compagnie, j'ai besoin d'une école, exactement comme Louis XIV a senti le besoin de continuer à entraîner ces artistes. Nous avons aussi des écoles européennes, en Allemagne en particulier. John Neumeyer, très vite, lorsqu'il est arrivé à Hambourg, a demandé une école. Et il est très attentif au travail de ces danseurs qu'il conduit dans une école traditionnelle, c'est-à-dire on apprend la première position, de la première à la cinquième, on va apprendre des assemblées, mais dès la position des pieds à la barre, les différences se voient. Les Russes vont avoir des pieds placés beaucoup plus en dehors, on va avoir des hauteurs de bras différentes, on va avoir des qualités. Toutes ces écoles sont de qualité, mais la France va travailler plus la petite batterie parce que notre répertoire à l'opéra comporte des ballets avec petite batterie. On a un travail de pointe particulier qui a été aussi orienté en fonction des scènes, les scènes en pente, les scènes à plat. Donc toutes ces contingences techniques font que l'enseignement va être différent, mais on parle le même langage. Moi, j'ai pu aller danser au Bolchoï en dansant en plus des ballets typiquement russes, Raymonda et Bayader. Évidemment, je l'ai fait différemment des danseuses de là-bas, mais j'ai très très bien compris aussi ce qu'ils m'ont apporté. Et on a une uniformisation, une mondialisation, mais en même temps, on est très très différents.
Le style français, comment vous le définiriez ?
Déjà, c'est un mélange de royauté, de délicatesse, de distinction, et on est très cartésien, parce qu'on est français.
Je voudrais qu'on va revenir un petit peu sur l'entrée à l'école de danse, sur le cursus à l'école de danse. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de vous. Pour commencer, ce choix-là de Czerny, c'était quoi précisément cette étude virtuose au possible, sous les doigts de Jean-Frédéric Neuburger, je ne l'ai pas dit d'ailleurs.
Bien, c'est le travail. La danse est une passion, la danse est un plaisir, mais c'est absolument... on ne peut pas danser si on ne travaille pas. Ça ne doit pas être non plus la seule chose unique, parce que j'entends parfois des enfants, il faut que je travaille, il faut que je travaille. Avoir du plaisir. Ouais. C'est un métier qui doit être long. On fait des danseurs pas pour faire 2 ans de carrière, pour faire surtout à l'Opéra de Paris. On a vraiment tout un chemin de carrière où on a des rôles différents suivant les âges. Donc il faut avoir le plaisir à ce travail, le plaisir de la barre, le plaisir de refaire les mouvements pour les perfectionner, pour arriver à une excellence qu'on va toujours repousser. On n'a jamais l'excellence idéale n'existe pas puisqu'on va toujours essayer de faire mieux. Donc ces études me ramènent au travail et c'est aussi des études au piano.
Oui.
Donc ça, c'est un de nos partenaires. Tous les cours sont accompagnés par un pianiste. Oui. Ce pianiste n'est pas juste là pour mettre de la musique sous les pieds. C'est un artiste qui va représenter musicalement les propositions du professeur. Et je voulais par ce choix montrer comme quoi l'école est totalement unifiée. Ses professeurs et ses pianistes font un travail commun ensemble. Et je suis très fière de dire qu'à l'école de danse, nous avons de très bons pianistes.
Mmh. Vous avez, pour poursuivre un petit peu sur votre parcours, vous êtes directrice de l'école de danse, on le sait. Mais vous avez eu un parcours un peu particulier. Vous n'êtes en quelque sorte pas un pur produit de l'école de danse de l'opéra, puisque vous avez commencé la danse au conservatoire, mais l'essentiel de votre formation s'est faite au conservatoire de Paris.
Alors, c'est un choix que peuvent encore avoir des élèves maintenant. Nous avons à l'école de danse des normes indicatives de taille.
C'était votre choix au départ ou de passer par le conservatoire ou alors vous rêviez de rentrer toute petite à l'école de danse?
Alors, moi, je voulais d'abord être danseuse. Ouais. Ça, c'est une chose très sûre. Je voulais être danseuse et je voulais être danseuse étoile à l'Opéra de Paris.
Vous l'avez su à quel âge, ça?
6 ans.
D'accord. 6 ans, vous étiez danseuse. Vous vouliez être danseuse.
Ah oui, oui. Ça, le premier cours a été décisif. J'ai un souvenir très, très précis de ce premier cours. Et je suis sortie de là en disant, c'est ça que je veux faire. Mmh. Et je n'ai pas dérogé. J'ai jamais été à un moment tentée par autre chose. C'est d'ailleurs je regrette un peu, par exemple, de ne pas jouer du piano. J'aurais bien aimé faire autre chose. Je suis absolument pas douée du tout pour chanter et pas douée pour dessiner. C'est mon frère, lui, qui est très doué pour le dessin. Il est sculpteur. Donc là, comme ça, c'est clair.
Et aucun moment de découragement. Vous le disiez, c'est très dur comme travail. Jamais.
C'est un parcours difficile comme tous les parcours d'excellence, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut, vous savez, telle Pénélope, remettre l'ouvrage. Mais au contraire, on a besoin aussi de ces moments de doute pour progresser. Donc le choix qu'ont fait mes parents, c'est un moment où j'étais un petit peu au-dessus des normes de taille, de peut-être attendre que ma décision soit vraiment profonde. Et pour moi, ça a été une chance extraordinaire que mon premier professeur, Jacqueline Cochet, me présente à Christiane Vossard, une amie. Et Christiane Vossard, tout de suite, a posé son regard sur moi. Et j'aime ce mot « regard » parce qu'un jour, je lui avais demandé de donner des cours de pédagogie. Et elle m'avait dit « Comment veux-tu que j'apprenne aux gens à regarder ?» Et le professeur, il regarde. Mmh. Et Christiane m'a regardée. Elle a cru en moi. Elle aussi a eu des doutes parce qu'il y a eu des moments, c'était pas facile. Et elle m'a accompagnée, comme elle a accompagné d'autres élèves comme Jean-Yves Lormeau, comme Claire-Marie Osta, étoile.
Qui est aujourd'hui professeure au CNSM.
Elle est donc la nouvelle directrice du CNSM, section danse.
Ouais, ouais.
Donc tous ces gens-là sont des gens qui ont fait ce parcours particulier de passer par le conservatoire. Donc un cursus parallèle avec quand même le professeur qui était chargé de la première division à l'école de danse. Donc je pense que l'enseignement n'était pas aussi loin qu'on imagine, mais un caractère familial différent. Et Christiane Vossard m'a conduite jusqu'à ma nomination.
Si je vous pose la question, c'est qu'il faut commencer, évidemment, avant de tenter l'entrée au CNSM, il faut, j'imagine pour les enfants ou les parents qui se posent des questions, il faut commencer l'étude de la danse dans un conservatoire
de région, ou une école privée.
Oui.
Vous savez, je rends vraiment hommage à tous ces professeurs qui ont des écoles privées. D'abord, c'est très difficile parce que, surtout au troisième trimestre, ils vont rire s'ils m'entendent parce que quand ils essayent de donner les cours malgré les communions, les anniversaires, les baptêmes et les week-ends, c'est un peu délicat.
Oui.
Mais ils ont ces enfants où il y a un mélange d'enfants doués, d'enfants pas doués. Au moment où ils disent aux parents « cet enfant est doué, il faut la présenter à l'école de danse », et là, c'est l'ouverture à l'inconnu.
Mm-hmm.
C'est très dur pour ces professeurs de donner une exigence à une époque où, en plus, l'exigence dans l'enseignement, c'est, j'ai dit un jour, suspect.
Oui.
C'est suspect, l'excellence.
Oui. Il y a combien environ, je parlais de 330, il y a combien d'écoles et conservatoires environ, vous avez une petite idée, qui enseignent la danse pour les débutants aujourd'hui en France?
Je ne sais
vous savez pas.
Ah, alors enseigner aux débutants, ouais. C'est pas évident du tout.
Ouais.
C'est pas du tout.
On le donne très plis,
souvent.
Ça, mauvais,
ouais, on le donne très souvent à de jeunes professeurs. C'est la chose la plus difficile.
Mmh.
Et je sais qu'à l'école, les niveaux les plus jeunes chez moi, c'est une chose très très importante. On leur apprend la coordination, on leur apprend la musicalité. Et mauvais pli, non, parce que heureusement qu'on peut corriger certaines choses, mais c'est quand même des automatismes qu'on va apprendre.
Les plus jeunes qui rentrent à l'école de danse, les plus jeunes, n'ont jamais dansé auparavant?
On dit qu'on aime bien avoir des enfants qui n'ont jamais dansé, mais je pense que c'est parfaitement impossible. Par contre, il se trouve que cette année, j'ai pris un petit garçon en novembre qui avait commencé en septembre.
Oui, d'accord. Oui. Donc c'était tout frais.
Ah, c'était très frais.
Ouais, ouais. On va revenir sur les conditions d'entrée à l'école de l'Opéra de Paris, ce qu'on y fait précisément, ce qu'on y fait lorsqu'on a fait tout ce parcours et que bien, se pose la question du devenir du danseur. On va faire une nouvelle pause musicale avec Chopin. C'est toujours des études et vous nous direz pourquoi Chopin précisément. On écoute et c'est Pogorelitch qui s'y colle. Deux études de Chopin, opus 10 sous les doigts d'Ivo Pogorelitch, un compositeur qu'on a beaucoup vu également à l'opéra, mais pas seulement à l'opéra, par le ballet de l'opéra, de très belles chorégraphies des nocturnes de Chopin notamment. Robbins, vous disiez tout à l'heure, Elisabeth Platel.
Oui, ce sont des musiques, alors là c'était un petit côté nostalgique parce que justement au conservatoire il y avait une telle entente entre Christiane Vossard et la pianiste qui s'appelait Colette Astruc. Elle nous a, toute ma génération d'élèves, a été formée musicalement par cette pianiste qui nous faisait des journées à thème. C'est-à-dire qu'on avait une semaine où toute la barre était que sur du Chopin, une autre semaine où c'était du Schubert, du Schumann. Et Christiane Vossard allait faire des recherches musicales extraordinaires grâce à cette pianiste. Et j'ai encore des pas, des exercices qui me viennent chaque fois que je matérialise cette musique. C'est à la fois, on est un peu bloqué par ça parce que dès que j'entends une note... Comme j'ai beaucoup dansé, je me dis, tiens, ça me rappelle telle chose. Et en même temps, une note sur laquelle je n'ai jamais dansé, j'imagine quelque chose. Ouais. Mais je ne suis pas chorégraphe.
Vous n'êtes pas chorégraphe. Vous réglez parfois quelques chorégraphies pour les enfants?
Oui, c'est toujours à but pédagogique, ouais. C'est pour les démonstrations. Là, par contre, un exercice, j'ai une verve chorégraphique, d'accord. Parce que j'ai un but.
D'accord.
J'ai un but pédagogique, je vais faire telle difficulté technique parce que je cherche quelque chose. Et elle sera artistique.
Je disais en introduction qu'il y avait environ, c'est ça, 152 élèves précis en 2011. La directrice de l'école de danse de l'opéra que vous êtes, combien reçoit-elle de demandes d'entrée à l'école de l'opéra chaque année ?
Tous stages confondus, puisqu'on a les stages de 8 à 11 ans, de 11 à 13 et au-dessus de 13 ans, tous stages confondus, c'est autour de 450.
Ouais.
Alors, ça,
un tiers reste environ, à peu près.
C'est surtout les dossiers que nous recevons, mais après, on a des demandes qui ne sont pas recevables.
Par exemple ?
Bah, ça va être quelqu'un qui va être avec vraiment 5 cm au-dessus des normes.
Ça se joue à 5 cm l'entrée à l'école de danse.
Ça dépend des âges.
Ouais.
Ça dépend des âges. Et c'est un instant... Vous savez, la différence dans un groupe d'élèves de 12 élèves va être très dure à supporter pour l'enfant. Moi, je sais que j'ai fait partie des grandes à mon époque. J'étais toujours au fond dans la présentation. On avait un arc de cercle et j'étais celle qui faisait la pointe de l'arc de cercle. J'étais jamais devant.
Ouais.
Et ça peut être perçu... pas très bien, la plus grande. Non, toi, tu fais pas parce que tu es trop grande. Alors après, il y a le contraire. Non, toi, tu fais pas parce que tu es trop petite.
Vous parlez d'un stage, c'est-à-dire que lorsqu'un élève se présente selon son âge, il est accepté, si je puis dire, pour une durée déterminée avant de savoir si on le garde.
Pour devenir élève, il y a une période d'essai qui est soit de 6 mois pour les 8 à 11 ans, soit d'un an pour au-dessus de 11 ans.
Oui. Les élèves qui rentrent, c'est leur volonté, ils rêvent de devenir danseurs ou c'est les parents qui les poussent ?
Alors je dirais que ceux qui restent, c'est leur volonté.
Ouais.
Je pense qu'il y a parfois des désirs des familles, parce que c'est aussi un investissement énorme de la famille, mais ceux qui restent, qui supportent l'exigence que nous avons, c'est pas le bagne non plus, on les attache pas à la barre, mais ceux qui restent, c'est vraiment parce qu'ils ont envie. Souvent, certains enfants ne réalisent pas le rêve, c'est-à-dire qu'ils imaginaient l'école d'une certaine manière et ils s'aperçoivent que ce n'est pas ça.
Marie-Hélène ?
Plus généralement, quel est leur profil ? Ils viennent d'où ? Est-ce qu'il y a des élèves étrangers ? Comment vous choisissez ces élèves qui sont chez vous ?
Ils viennent de partout. Ils viennent de toutes les régions de France. Évidemment, c'est plus facile pour les Parisiens parce qu'il n'y a pas d'autres investissements qui est un investissement parallèle, financier, les voyages, les familles d'accueil, l'internat, puisque je vous rappelle que l'enseignement est gratuit. À l'école de danse, c'est gratuit. Il y a juste les droits d'inscription pour l'audition, mais nous sommes totalement gratuits. Et ça me permet justement d'être libre, de choisir les enfants que je veux et éventuellement même d'aider des très doués qui sont complètement démunis financièrement. Et nous avons maintenant ouvert avec l'Europe, les Européens, Italiens, Espagnols sont pour moi des Européens, donc il n'y a pas d'histoire de nationalité. Puis on est allé un peu plus loin, on a en particulier un Coréen, un garçon de Hong Kong. Par contre, la condition, c'est de parler français et d'être complètement inscrit au système scolaire français, puisqu'ils ont scolarité le matin.
Sur, disons, une dizaine d'élèves qui rentrent en stage chaque année, combien en reste-t-il à la fin de ce stage ?
Là aussi, on est totalement lié au corps de ballet de l'opéra, puisque nous avons les places d'engagement dans la compagnie dépendent des départs des danseurs. Donc, il y a des prévisions, il y a aussi des générations. Je ne vais pas me priver d'un enfant doué si j'ai brusquement une classe qui est trop chargée. C'est dommage. Je vais le prendre parce que j'ai envie de le faire travailler, de le faire évoluer.
Donc, en fait, vous recrutez à l'école de danse, ces effectifs se constituent en fonction des places futures qui se libéreront mais dans des années dans le corps de ballet de l'opéra.
Il faut que je fasse attention, mais après c'est tellement ça bouge tellement parce que il y en a certains qui vont redoubler une classe, un niveau de danse, donc ils vont pas se retrouver dans l'année que j'avais prévue au départ. Donc c'est très fluctuant.
Mais combien dure le cursus de l'élève danseur ?
Alors il dure 6 niveaux, c'est 6 divisions. Mais on peut le faire entre 5, 6, 7, 8 ans. C'est-à-dire que l'enfant doit quitter l'école lorsqu'il a 18 ans en début d'année.
Et s'il y a un échec en cours de parcours, est-ce que l'enseignement diffusé permet de recaser un élève sans problème dans une autre école, ce que je disais un petit peu ordinaire, ou est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là ?
Non, alors ça, de ce côté-là, on a fait un énorme travail au niveau du service scolaire et nous avons d'abord actuellement, depuis 2 ou 3 ans, 100% de réussite au bac et au brevet. Alors, bac section littéraire, on a des mentions très bien au bac, ce qui est quand même assez satisfaisant.
Cet enseignement est dispensé à Nanterre.
Sur place. Ça, c'était vraiment le projet de Claude Bessy d'avoir tout sur place, comme c'est le cas au Bolchoï et au Mariinsky. Mmh. Elle a vu la limite que représentaient les cours dispensé sous les toits à l'opéra. C'était historiquement extraordinaire. Le déplacement de l'école à Nanterre a été très, très critiqué au début. Les petits rats quittaient, pas le navire, mais le théâtre, la maison mère. Ouais. Et en fin de compte, ces deux stations de RER, il n'y a pas de distance. Et les enfants, vous savez, même ceux qui arrivent, qui n'ont jamais mis les pieds sur la scène de l'opéra, le premier défilé qu'on fait, ils disent « c'est notre scène ». Donc il y a une sorte d'assimilation totale de l'opéra et de l'école, mais sur place on a tout. Ils se lèvent le matin à 7h, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de déplacement en train, métro.
La plupart sont internes. Hein.
J'ai beaucoup d'internes et même des Parisiens.
D'accord. Vous disiez donc 18 ans, le cursus est terminé, l'âge minimum d'entrée
8 ans.
8 ans, d'accord. Est-ce que, depuis que vous êtes directrice, ça va bientôt faire 10 ans, l'enseignement de l'école de danse a changé par rapport à Claude Bessy?
Alors, le cursus n'a pas changé par rapport à Claude Bessy parce que, comme j'ai dit en arrivant, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Ouais. Elle a justement, en arrivant à Nanterre, grâce au nombre de studios qui s'est multiplié, il y a la possibilité de faire 12 cours en même temps. Elle a diversifié les enseignements dits complémentaires pour avoir vraiment une formation complète. Et il y a juste quelques enseignants que j'ai changés puisque certains arrivaient à la retraite. Mmh. Je suis totalement la tradition d'enseignement de notre école qui est très puissante. Et obligatoirement, les esprits vont évoluer en fonction de l'évolution du répertoire du ballet de l'opéra.
Ouais.
Mais la base, nous devons avoir un enseignement classique de grande exigence pour avoir une technique classique permettant aux élèves d'interpréter tous les ballets classiques du répertoire de l'opéra. D'autant plus qu'on a aussi l'évolution par les ballets de Rudolf Nureyev.
On peut dire qu'il y a une continuité quand même depuis une quinzaine d'années au ballet de l'Opéra de Paris avec le travail de Brigitte Lefèvre. Claude Bessy était là au moment où Brigitte Lefèvre était là. Vous prenez la succession de Claude Bessy. Est-ce que, avec l'arrivée de Benjamin Millepied par exemple, ça va être une façon d'envisager différemment les choses? On va renouveler le répertoire? Est-ce que vous avez déjà une petite idée de ce qu'il va vouloir faire avec ces petits rats?
Alors, personnellement, je ne l'ai pas encore rencontré à ce sujet. Ouais. Hein, je l'ai quand même vu le jour de la conférence de presse annonçant sa nomination. Mais il vient d'une institution quand même, puisqu'il vient du Conservatoire de Lyon, qui a aussi
mais
un enseignement.
Mais il est passé par l'école américaine.
Il est passé par une institution également, puisque School of American Ballet est quand même très, très inspiré par la compagnie. Moi, c'est l'école de danse du Ballet de l'Opéra de Paris. Ce n'est pas mon école, c'est l'école de l'opéra. C'est l'opéra qui est le plus fort. Et on a, comme toute institution, surtout après avoir fêté 300 ans de notre style, on a un devoir, pas de musée, mais de conservation. On est encore à Louis XIV qui a créé le conservatoire de danse. Il faut donc garder ses ballets et il faut avancer dans l'avenir. Dès qu'on a fait ces célébrations, ce n'était pas du tout un regard du passé. C'était au contraire une sorte de remerciement au passé qui fait qu'on peut avancer.
Deux questions, deux chiffres plutôt. 95% des danseurs du corps de ballet de l'opéra viennent de l'école de danse. D'où viennent les 5 autres %?
Ce sont des danseurs qui se sont présentés à l'audition extérieure qui a lieu le lendemain ou 2 jours après le concours réservé aux élèves de l'école de danse et qui ont su convaincre à la fois la direction et le jury qui préside qu'ils pouvaient danser à l'Opéra de Paris.
Combien, autre chiffre, ça je ne l'ai pas, mais combien d'élèves arrivent à 18 ans chaque année, sont prêts à tenter le concours du ballet de l'opéra?
Cette année, j'ai une promotion de, je crois, c'est 10 filles et 9 garçons.
10 filles et 9 garçons. Et sur ces 10 filles et 9 garçons, combien rentrent dans le corps de ballet?
Cette année, il y a un certain nombre de places que je ne peux pas diffuser maintenant.
L'année dernière, par exemple, pour avoir...
L'année dernière, c'était une année, je dirais, parents pauvres. Il n'y avait que 4 places.
4 places sur une vingtaine de candidats, entre guillemets.
Mais les élèves qui n'ont pas 18 ans peuvent revenir refaire une première division à l'école de danse, surtout lorsque ceux-ci sont en première scolaire, ça leur permet de passer leur baccalauréat.
Et pour retenter le concours
pour
l'année suivante. Alors, que font ces élèves quand ils ont passé des années, ces 6 niveaux à l'école de danse et qui ne sont pas pris définitivement pas pris au corps de ballet. Que font-ils après, une fois qu'on a ce cursus extraordinaire?
Ce sont quand même des danseurs déjà avec un certain bagage technique leur permet de postuler dans d'autres compagnies. Juste le problème, c'est que notre audition de l'opéra est assez tard, puisque c'est aussi un examen qui va leur délivrer le diplôme national de danseur. Donc, ils ne peuvent pas donner de réponse à des directeurs de compagnie où ils ont passé des auditions pendant l'année. Mais ils se sont positionnés. Donc j'ai beaucoup de danseurs de l'opéra de l'école qui sont dans d'autres compagnies, et puis certains font un choix. Et parfois
ils
arrêtent.
Des compagnies,
non, parfois ils arrêtent la danse.
Ils font autre chose.
Ils retournent aux études. C'est
D'accord.
pour ça que le parallèle de la scolarité est très très important.
Merci beaucoup, Elisabeth Platel, de nous avoir apporté vos éclairages sur l'école de danse. Sur le site de l'Opéra de Paris, www.opéraparis.fr, il y a une section qui est réservée à l'école de danse où on a tout ce qu'il faut savoir sur les conditions d'entrée, la taille, je crois, ce qui est précisé, âge par âge.
C'est indicatif, oui. Quand même, parce qu'on ne va pas se priver de quelqu'un de bien qui a 2 cm de plus.
D'accord. Très bien, merci en tout cas, merci à toute l'équipe aujourd'hui. Nelly Portal pour la préparation de l'émission, merci Marie-Hélène Duvigneau, Philippe Palares à la technique, Eric Lancien à la réalisation. Bonne soirée, bon week-end, à samedi prochain.